Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Eli Lemel et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Eli Lemel, les paroles du Rav sont attendues ce soir parce qu'on vit des moments qui sont graves. Ceux qui sont partis à la Griba pour un moment de famille, un moment bienveillant, ont été attaqués, visés. Et donc on est, comme toujours dans ces cas-là, tous solidaires les uns les autres. Tout le monde s'intéresse, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu avais des gens que tu connais là-bas. Mais il est rare, et heureusement d'ailleurs que ce soit rare, qu'en même temps, on a pour le coup tous nos frères qui sont en Israël, qui sont touchés par les attaques, le terrorisme. Je comptais ce matin, puisque je suis là pour ça, malheureusement. Ce matin, je pense que ça a dû changer, ce matin, 804 roquettes depuis le début des opérations. On s'imagine 804 missiles sur des villes, des villages. Je ne veux pas être trop sentencieux, mais c'est très dur et très lourd. Donc on attend un peu les paroles du Rav d'abord. On dit que voilà... cet après-midi, on doit entrer dans la douceur et surtout apprendre à être joyeux. Voilà. Quelles sont les paroles qui vous viennent à l'esprit et qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, Rav Eli Lemel?
Oui, en effet, c'est vrai qu'on est à nouveau touché de manière très très forte, très bouleversante. Alors, comme vous le disiez il y a quelques instants, il y a ce qu'on appelle les paroles sentencieuses. Vous savez, on connaît quasiment ces paroles qui viennent prononcer. Évidemment, quand on est confronté à ce genre de situation, un des enjeux majeurs, c'est de se dire qu'est-ce qu'on est en train de nous dire et qu'est-ce qu'il faut qu'on en prenne. Ceux qui, évidemment, ont disparu à la Griba, dans un moment dans lequel, en effet, eh bien, on essayait de développer une rencontre pour se retrouver dans un lieu quand même très, très particulier, eh bien, Yad Hashem, la main d'Akadosh Baruch Hu, les a frappés, qu'on le veuille ou pas, c'est passé par des terroristes, mais derrière cela, eh bien, le créateur de l'univers nous dit quelque chose. Alors eux, malheureusement, eh bien, ce sont des Kedoshim, ce sont des gens qui sont considérés comme saints, ils sont morts à l'Kiddush Hashem, sur la sanctification du nom de Dieu, car nos maîtres nous expliquent et nous disent que toute personne qui est tuée parce que juive, eh bien, ça s'appelle al-Kiddush Hashem, ça s'appelle pour la sanctification du nom d'Hashem. Et peut-être que nous, notre question est de savoir, est-ce que nous, aujourd'hui, nous essayons de sanctifier le nom de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que ça doit toujours passer à travers ce genre d'événement? Ou alors, est-ce que la sanctification du nom de Dieu, eh bien, ça passe aussi à travers une démarche positive au quotidien dans laquelle on essaye de nous montrer en premier lieu à nous-mêmes, et puis après de montrer à celles et à ceux qui sont autour de nous ô combien la parole d'Hachem est importante et combien nous essayons dans notre vie de nous comporter le mieux possible parce que nous sommes dépositaires d'un message particulier. Ça, c'est peut-être la première chose. Et puis, en Eretz Israël, eh bien, oui, en effet, le bruit des sirènes, le bruit du dôme de fer. Alors, ce matin, j'ai reçu une vidéo assez impressionnante dans laquelle, eh bien, on voit 150 soldats qui viennent de célébrer un sioum, c'est-à-dire la conclusion, chacun d'un traité du Talmud, et qui chantent et qui dansent ensemble, et la personne mettait en dessous, voilà aussi notre kippat barzel, notre dôme de fer. Eh bien, c'est peut-être aussi pour nous rappeler que nous avons besoin d'être solidaires les uns des autres autour des valeurs de la Torah, qu'on le veuille ou pas. On ne peut pas sans arrêt se dire, bon, d'un côté, il y a les pratiquants, les non-pratiquants, les laïcs, les religieux, les orthodoxes. Non, le clan Israël est un, mais il est un autour des valeurs de la Torah. Alors certains, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas pris conscience de la dimension fondamentale de ces valeurs et ô combien eh bien, nous devons nous tourner vers ce qui est au cœur même de notre identité, c'est-à-dire l'univers de Torah Mitzvot. Vous savez, aujourd'hui, on aime bien avoir ce genre de discours de respect, de tolérance, alors qu'on n'est pas là ni pour respecter ni pour tolérer. parce que si je dis que je tolère l'autre, c'est-à-dire que je suis moi-même la référence et je veux bien de l'autre. Non, pas du tout. Le Klal Israël, c'est un corps. Ce corps-là, eh bien, quand un des membres est touché, c'est la totalité du corps qui a mal. Et ça, c'est quelque chose qui est du domaine de l'évidence. Mais Eret Israël beli Torah, que gouf belin shama. Eret Israël sans Torah, c'est comme un corps sans âme. Ne l'oublions pas. Alors, malheureusement, aujourd'hui, eh bien, ce qui manque beaucoup, c'est le savoir, c'est la connaissance, la capacité de s'extraire de nos certitudes et de nous tourner peut-être un peu plus vers la dimension essentielle qui est cette spiritualité qui est au cœur même de l'identité juive et qui doit être au centre aussi de la vie de tout être humain. Voilà ce que ça m'inspire, avec évidemment cette nécessité de faire la tfila. Vous savez, on sait que toutes les personnes qui s'agressent malheureusement, parce que je n'ai pas d'autre mot, autour de ces combats, Cour suprême et toutes ces choses-là, ont toutes eu les mêmes messages au moment où ces roquettes nous sont tombées dessus. Est-ce que ça veut dire que, à nouveau, on doit se rappeler que on doit être ensemble? Malheureusement, peut-être oui, et j'ose espérer que nous n'aurons pas besoin dans les prochains jours d'avoir cela pour pouvoir décider que nous sommes Am Echad, un peuple unique, un peuple uni, un peuple qui doit véhiculer ses valeurs fièrement, les revendiquer et surtout tout faire pour qu'elles s'expriment dans une manière d'être qui est le Kiddushem Shamaim, la sanctification du nom de Dieu.
Alors, avec ces paroles très fortes, c'est aussi l'occasion de nous rappeler, puisqu'il y a eu aussi l'attentat à la Griba, donc en Tunisie, que dans cette notion de Amirad, un seul peuple tous ensemble, il y a ceux qui sont en Israël, il y a ceux qui sont partout à travers le monde, et donc ça nous englobe nous aussi. Rav Lemel, avec votre permission, mais je sais que je l'ai, je voudrais qu'on dédie notre émission à une personne, Lilou Nishmat, puisque Rav Mordechai Biton, qui participe à notre émission de chaque semaine, n'est pas avec nous cette semaine car il a perdu sa sœur. Et je voudrais dédier notre cours de ce soir à Lilui Nishmat, Michel Michal Chabiba. Chabiba, je crois que c'est comme Chaviv en hébreu, Bat Simcha, c'est-à-dire quelqu'un de cher. Je redis, Michel Michal Chabiba Bat Simcha, qui est donc la sœur de notre ami Rav Mordechai Biton. Et nous associons aussi toutes les victimes de la Griba et ceux qui sont en Israël. Rav Eli Lemel, nous sommes dans Berukotai. Et alors Berukotai dit l'un des principes essentiels du judaïsme, mais bien sûr comme pour beaucoup de choses, à Torah, moi je ne comprends pas grand-chose, je les répète mais je ne comprends pas, et donc vous allez pouvoir nous éclairer un peu. En fait, le principe c'est le suivant. Im Berukotai Tilchu, si vous allez dans mes commandements, qui plus est les plus durs à comprendre, les roukotes, je ne sais pas comment on dit, les constitutions, on dit en français. Si vous allez dans mes commandements, alors vous serez bénis. Donc c'est un pacte. C'est un pacte entre nous et le ciel. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment on dépasse le simple idée de si je fais ça, on va me taper sur les doigts. Comment aller plus profondément dans les choses et en fait, qu'est-ce que ça veut dire, quoi?
Exact. Alors on est en effet dans ces deux dernières sidrotes qui concluent le livre de Vaïkra, Bar Berukotai. Et Berukotai, commence par ce fameux terme de « im »,« si ». Berukotai telechu. Alors, si on fait une traduction littérale, elle serait la suivante. Si vous littéralement marchez dans mes statuts, c'est-à-dire dans mes chukim, donc dans ces lois qui a priori sont incompréhensibles. « Vet mitzvotai tishmeru » et que vous gardez mes mitzvot, va asitem otam, et que vous les fassiez, à ce moment-là, Dieu nous dit, venatati kishmechem beitam, je vous enverrai, et à la fois la pluie en son temps, etc., etc., toutes les brachot. Donc déjà, ce qui est très intéressant ici, c'est ce terme de im, c'est-à-dire, et si, la notion conditionnelle, Akadosh Baruch Hu est en train de dire à son peuple, sachez qu'au fond, tout dépend de vous. Tout dépend de vous, et de la manière dont vous allez vous positionner par rapport au monde de la Torah et des Mitzvot. Alors là, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a plusieurs termes qui sont utilisés. Tout d'abord, Berukotai Telechu, que vous marchiez dans mes chukim, dans mes statuts, c'est-à-dire, au fond, que vous puissiez avancer dans l'univers en assumant pleinement qu'il y a ce qu'on appelle des choukim, c'est-à-dire des lois qui a priori nous semblent incompréhensibles, l'interdiction de mélanger du lin et de la laine dans les vêtements par exemple, et marcher, avancer de cette manière, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'assumer qu'il y a peut-être des choses qui nous paraissent être incompréhensibles, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas les accomplir. Il y a ici, en effet, l'expression de la foi profonde qu'a le peuple juif dans la parole divine, sachant que tous les actes que nous allons faire ont un impact, pas juste dans notre vie, mais au niveau de l'univers. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une dimension beaucoup plus profonde. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est-à-dire, im b'chukotai telechu, marcher et avancer de cette manière. Vet mitzvotai tishmeru, et que vous gardiez mes mitzvot. C'est-à-dire, la notion de garder, c'est être capable de donner de l'importance à une chose. Je l'ai souvent dit d'ailleurs, et je pense que j'ai même dû une fois le dire sur cette antenne, que le mot shomer, garder, quand on dit qu'on est shomer Shabbat, on garde le Shabbat. Shabbat n'a pas besoin d'être gardé. Shomer, ce sont les mêmes lettres que le mot Rochem et Morish. Ce sont trois mots qui ont les mêmes lettres. Et Shomer, ça veut dire garder. Rochem, ça veut dire noter. Morish, ça veut dire faire hériter. Et le point commun entre les trois, c'est que c'est une notion d'importance. On garde une chose qui a de la valeur, on note des choses parce qu'elles sont importantes, on fait hériter une chose qui a une valeur, ne serait-ce que symbolique. Dieu dit, donc déjà, avancer dans le monde avec cette force de dire oui, il y a des choses qui peut-être parfois nous dépassent radicalement, mais ils sont l'expression de la parole divine, donc c'est la raison pour laquelle on est à leur écoute. Seconde chose, nous donnons de l'importance aux mitzvot. Elles représentent quelque chose de fondamental. Va asitem otam, et après nous allons les accomplir. C'est-à-dire, c'est un état d'esprit que l'on doit avoir. C'est pas juste, on fait notre mitzvah, chic alors, super, on a fait notre BA, et puis on passe à autre chose. Bien sûr que quelqu'un qui accomplit une mitzvah, ne serait-ce que dans cet état d'esprit, c'est déjà génial. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Ça, au fond, c'est ce qu'on attend de nous. C'est-à-dire de rentrer un petit peu plus dans un monde de profondeur, de rentrer dans un univers dans lequel on accepte qu'il y a des choses qui nous dépassent radicalement et malgré tout, on les fait. On donne de l'importance aux mitzvot, va'asitem otam, et on les fera. Mais aussi, nos maîtres nous disent, et je conclure là-dessus, que im b'chukotai telechu, il y a cette notion de shetiu amelim b'torah, de faire des efforts dans l'étude de la Torah, parce que nous avons l'obligation de comprendre, de percevoir, de rentrer en profondeur dans la génialité absolue de ce texte. Et au fond, c'est ce qui nous ouvre très fortement vers la fête de Shavuot qui arrive bientôt. C'est-à-dire se rappeler que l'étude de la Torah va être un élément fondamental dans la construction de l'identité juive. Et c'est tout cela en vérité qui crée le peuple d'Israël. Et à nous de savoir, pas juste le dire, mais savoir l'appliquer dans notre réalité quotidienne. Voilà un petit peu, en tout cas, les quelques petits enseignements que l'on peut déjà prendre à partir de ce verset.
Bien, on va essayer de méditer, essayer de... Ben, je crois d'ailleurs que vous, les rabbinim, vous nous dites, ben, je ne parle évidemment pas à votre place, mais on entend souvent, essayez. On vous demande d'essayer. Personne ne vous dit que vous serez parfait. Essayez. Alors, on va essayer. Déjà en parlant, par exemple, et en faisant une partie de notre dîner de ce soir. Rav Eli Lemel, je vous remercie. Bonsoir à vous. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Je vous le disais en début d'émission, Rav Mordechai Biton n'est pas avec nous ce soir, car il est endeuillé, il a perdu sa sœur. Donc je rappelle aussi que nous avons dédié cette émission à celle-ci. Elle s'appelle, donc c'est Leilui Nishmat, Michel Michal Habiba Bat Simcha, qui est la sœur de Mordechai Biton. Je rappelle aussi que nous dédions notre émission tout autant aux victimes de l'attentat de la Griba et à nos frères en Israël, qui souffrent le plus aujourd'hui. On va donc faire une rediffusion. Et c'est d'ailleurs, on a pris tout simplement la rediffusion de l'an passé sur Be'ar Mechukotai. On écoutera Mordechai Biton, en sachant donc que c'est une rediff.
Alors, comme on est au pèlerinage de la Griba et en même temps sur Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne peut pas s'empêcher de ne pas dire un mot au sujet de Rabbi Shimon, puisque dans la journée de jeudi. La journée de jeudi sera marquée par l'Akba Omer et le lien avec la paracha de Béhar. La paracha de Béhar, c'est une paracha qui peut se lire à trois niveaux. Elle peut se lire au niveau de l'énoncé de la paracha elle-même, qui part des lois de Shemitah, c'est-à-dire l'observance, la nécessité, comme on est d'ailleurs pendant cette année, donc observer la septième année de chômage complet dans la culture, donc dans l'agriculture, laisser la terre complètement se reposer, etc. Et évidemment, la question qui se pose, c'est la question que la Torah va poser. Et si on arrête de cultiver la terre, qu'est-ce qu'on va manger pendant la huitième année? C'est-à-dire une fois qu'on va sortir de la Shemitah, et la Torah répond « Vetziviti et Birchati ». Hachem dit, je vais donner ma bracha. Non seulement vous aurez de quoi manger pendant l'année de Shemitah, la septième année, même la huitième, et même jusqu'à la neuvième année, au début de la neuvième année, à Sukkot. C'est donc finalement une manière, une mitzvah qui est absolument extraordinaire, parce que c'est une mitzvah qui nous dit, remettez le volant entre les mains d'Hachem. Voilà, c'est comme si on était au volant d'une voiture sur une autoroute, et une voix divine se faisait entendre, nous disait, lâche le volant. Et laisse-toi conduire. C'est exactement ce qu'on suggère à un peuple tout entier, lâcher le volant de l'agriculture, le volant, c'est un volant tout à fait fondamental, le lâcher complètement et se laisser conduire. Donc une épreuve de Emouna. Et cette mitzvah d'ailleurs est la mitzvah de Emouna, et d'ailleurs ceux qui l'observent, on les appelle Giboré à Emouna. Ce sont des Giboré, ce sont des héros de la Emouna. Alors, quel est le lien avec Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai est parmi les Tanaïm, c'est parmi les sages de la Mishnah, celui qui a d'une certaine manière porté au plus haut point cet attachement à la Torah et cet attachement à la Emouna, les deux. Parce que vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a rapporté une discussion dans le traité Brachot entre Rabbi Shimon, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Ishmael, et la discussion est finalement quelle est la dose d'effort que chacun d'entre nous doit faire dans sa parnassa, dans sa subsistance. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, prône donc une immersion totale dans la Torah. Alors, nos sages, finalement, nous disent qu'il y a ici deux niveaux. Il y a deux visions, comme toujours dans la Gemara, dans le Talmud, quand il y a une discussion sur ce genre de sujet, il y a ici deux visions, en fait. Deux visions, mais deux visions qui s'entendent. Il y a des gens qui ont la possibilité de vivre comme Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire des gens qui sont immergés complètement dans la Torah, et finalement, le monde repose sur leurs épaules. On en a eu un dans notre époque, qui est décédé il n'y a pas longtemps, Raphaël Kanievski, par exemple, le tzaddik, un des tzaddikim de la génération. On disait de lui que lorsqu'il rendait une décision, ça n'était pas un Rav qui avait parlé, ce n'était pas le grand de la génération qui avait parlé, c'était la Torah qui avait parlé. Et d'une certaine manière, il a incarné dans notre génération la dimension de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire cette dimension finalement de l'immersion totale, radicale, absolue dans l'étude de la Torah. Rabbi Ishmael disant lui, non, inaik b'em derechetz, il faut que chacun d'entre nous s'efforce d'étudier la Torah, mais en même temps sache consacrer quelques heures ou en tout cas un temps précis à travailler donc pour obtenir une subsistance. Mais quel est le fond de la discussion ici? Le fond de la discussion ici, c'est finalement comment s'exprime la Emouna du juif. Et le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, on a la possibilité, puisque vous savez qu'à chaque Iloula, on a la possibilité de demander de bénéficier des forces du tzaddik. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, en fait, au fond, c'est l'étude de la Torah. Et c'est le jour où les Mayanot, où nous dit le Zohar, où les sources profondes, les sources spirituelles, les plus profondes, les plus élevées, vont s'ouvrir et où chacun d'entre nous peut prier pour grandir dans sa Emouna, grandir dans sa foi, grandir dans, par l'étude de la Torah, s'attacher à l'étude de la Torah. Il faut savoir qu'au-delà des débats qui nous sont ramenés dans le Talmud, dans la Gemara, il faut comprendre qu'il y a aussi une invitation à réfléchir, à sortir du cercle, ce qu'on appelle raisonner en dehors du cercle. D'accord, chacun d'entre nous comprend de manière rationnelle qu'il est tout à fait normal, enfin tout à fait nécessaire de faire les mitzvot, en même temps de travailler, d'étudier la Torah, tout le monde comprend. Mais il y a un moment où il faut savoir raisonner en dehors du cercle et prendre des risques en quelque sorte. Et là, c'est le lien profond entre la paracha Béhar, qui est la paracha dans la Shemitah, où finalement, en quelque sorte, la Torah nous invite, entre guillemets, à prendre un risque, alors qu'elle nous garantit elle-même le résultat de ce risque. Et en même temps, le personnage de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui nous invite également à penser en dehors de notre cercle. Il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai va rester dans une grotte pendant un certain nombre d'années. Quand il sort, tout ce qu'il regarde, il le brûle. Et là, il y a une bat kol qui sort et qui dit « Mais je ne t'ai pas fait revenir dans mon monde pour que tu le détruises. » Il va revenir dans la grotte pendant un an, et quand il en ressort, il voit deux juifs qui sont en train de courir, et il leur dit, mais où vous allez? Ils ont des branches de hadas avec eux. Il leur dit, on a deux branches, une pour Chamor, une pour Zachor, une pour se souvenir des interdits du Shabbat, et une pour se souvenir des obligations et des joies du Shabbat. Et là, il comprend qu'il y a dans le peuple juif deux dimensions. Il y a la sienne, il y a la dimension de tous ces juifs qu'il rencontre et qui sont des gens qui sont profondément, Kol Yisrael Kedoshim, profondément attachés à la Torah et à Hachem. Et ces deux dimensions-là vont voisiner. D'accord, ces deux dimensions voisinées. À la fois la dimension d'Israël qui va reconnaître dans Rabbi Shimon Bar Yochai la quintessence du peuple juif, et en même temps la dimension de Rabbi Shimon Bar Yochai qui va reconnaître dans ce qu'est le peuple juif la quintessence de ce que peut être la Kedusha, la sainteté du peuple juif. Donc il y a là ici deux dimensions qui d'une certaine manière se complètent. Et la parashat Behar nous invite, elle, à prendre des risques dans la Mouna, à grandir dans la Mouna. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième et troisième niveau sont des niveaux plus complexes, en fait, où on nous parle ici de la manière dont le monde fonctionne. Comment Hachem gère son monde, et des choses qui sont difficiles d'expliquer ici, mais qui sont des allusions très, très profondes au monde que Hachem a créé avant de créer le nôtre, et au monde que Hachem crée en quelque sorte en permanence et recréera après notre monde. Donc ce sont des choses qui sont très profondes, évidemment très difficiles à aborder sur l'antenne de radio, mais ce sont des choses qui existent, et le Ramban, Nachmanide d'ailleurs, le rappelle en allusion, en quelques mots, dans son commentaire sur cette parashat Béa. Autre point qui est un point fondamental, je conclurai sur ça, c'est que c'est la parashat dans laquelle on nous parle de l'interdit de parler durement à son prochain, de tromper son prochain financièrement, de tromper son prochain par des conseils fallacieux. Et ce qu'on appelle la mitzvah, le issur de Onat Varim. Et c'est intéressant parce que le Midrash nous dit qu'il y a un lien entre la mitzvah de Shemitah, qui invite à la Emouna, et ces interdits. La mitzvah de ces interdits-là, ce sont des interdits qui nous invitent à avoir confiance les uns dans les autres, et donc à respecter des règles qui induisent une confiance instinctive l'un dans l'autre. Et lorsque ces règles ne sont pas observées, la société se délite. Et lorsque la société se délite, évidemment, la émouna également, le degré de foi en Hachem aussi se délite et tout se défait. Et donc il y a ici un lien très, très direct, un lien plus profond également, qui est que le Midrash dit que lorsque Hachem a donné la terre d'Israël à Avraham Avinu, il ne l'a pas trompé. Il lui a expliqué ce que c'était cette terre et ce qu'il avait à y faire. Et Avraham Avinu, précisément parce qu'il a compris quel était son rôle et son rôle, celui des descendants, a accepté ce cadeau et a accepté donc de rendre en quelque sorte à Hachem ce qui lui revenait, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la Emouna et qui est lié à Eretz Israël. On ne peut pas vivre en Eretz Israël sans faire preuve de Emouna et également, comme nous l'invite ici la paracha, sans faire preuve de droiture dans la relation à l'autre. C'est les deux dimensions fondamentales qu'on va parler dans cette paracha. En tout cas, à toutes et à tous, Shabbat Shalom, et vous savez qu'une Iloula, c'est toujours 3 jours avant et 3 jours après, donc même si vous n'avez pas allumé de bougie le jour du Lag BaOmer ou pour le pèlerinage de la Griba, eh bien allez-y, vous pouvez encore, donc RF Shabbat, et même Motsei Shabbat, ça ne sera pas encore trop tard, allumer donc des Nerot pour la mémoire de tous ces Kedoshim, et en même temps prier pour bénéficier de leur mérite. Alors Shabbat Shalom, et bon courage à nous tous.
Alors, Rav Mordechai Biton, d'abord déjà, je vais m'excuser pour nos auditeurs, donc je précise que je suis à Djerba, à la Griba, pour ce pèlerinage exceptionnel. S'il y a du bruit autour de moi, c'est les aléas des enregistrements comme ça en direct. Ça, c'est la première chose, évidemment, mais ça nous apporte toute la lumière en même temps de ce lieu merveilleux. Vous nous apportez celle de Jérusalem. Ce que je voudrais dire aussi, c'est rebondir par rapport à ce que vous venez de nous enseigner. Alors, il y avait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais le grand rabbin de Londres était un djerbien. C'est très étonnant, pourquoi un djerbien, grand rabbin de Londres? Je ne sais pas si c'est toujours le cas, parce qu'en fait, je vais raconter une histoire que j'ai vécue moi, et d'ailleurs ici à Djerba. C'était il y a plusieurs années. Et ce grand rabbin, on le dit, mais justement, on le dit, grand rabbin de Djerba, pourquoi à Londres, il y a des talmidei chachamim incroyables, le judaïsme britannique est un judaïsme extraordinaire au niveau de l'étude de la Torah, il y a des gens qui sont... Comment ça se fait que vous... Djerbien. Il a dit, moi j'ai vu beaucoup de choses, c'est pour ça que ça rebondit sur ce que vous venez de dire. Il dit, moi j'ai vu beaucoup de choses à Londres, et évidemment, bien sûr, j'ai un respect immense pour tous ces érudits. Il dit, mais par contre, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas. Et il a dit, je vous promets que ça va. La Emouna qu'il y a à Djerba, je ne l'ai vue nulle part. Un juif de Djerba ne connaît pas le doute. C'est sa façon qu'il a de vivre son judaïsme. Il le vit avec une douceur, avec un naturel et avec surtout une. Ça coule dans ses veines, c'est bon, lui évidemment en parlait 20 000 fois mieux que moi, mais il disait, je pense qu'il disait quelque chose qui était en relation à ce que vous venez de nous dire, Mordechai Biton, c'est génial de pouvoir le faire comme ça sur ces trois villes, Jérusalem, Paris et Djerba, ici à la Griba. Voilà, peut-être un mot sur ce
Oui, alors... Encore un mot, oui, sur ces pèlerinages. Il faut savoir que ces pèlerinages, c'est surtout une occasion de s'attacher au mérite du tzaddik. Chaque tzaddik a incarné une dimension particulière dans Israël. Et l'intérêt du pèlerinage, c'est que même si on ne vient pas, on peut allumer un air, s'asseoir dans son salon, et on peut méditer quelques enseignements du sage en question pour Rabbi Shimon Bar Yochai. En tout cas, il s'agit d'étudier quelques textes du Zohar, même si on ne les comprend pas, et évidemment d'étudier quelques textes de la Gemara, parce que ceux-là, on peut les comprendre et qui parle donc des enseignements de Rabbi Shimon. C'est tout l'intérêt. Tout l'intérêt, c'est de se rattacher à la grandeur et à l'enseignement du tzaddik. Voilà ce que je voudrais rappeler pour éviter qu'on tombe parfois un petit peu trop dans le folklore et qu'on oublie l'essentiel. Il me semble tout à fait important de le rappeler.
Voilà, je voudrais repréciser que ce que vous venez d'entendre est une rediffusion, car Rav Mordechai Bitton a perdu sa sœur. Il est endeuillé et donc il a préféré ne pas faire cette émission que nous avons dédiée à celle-ci. Les Ilui Nishmat, Michel, Michal, Habiba, Bat, Simcha. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gueh. Bonsoir Rav Gueh, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Gueh, on va aussi dire un mot pour nos frères qui soient en Tunisie, en Israël ou partout ailleurs, sachant que voilà, c'est un moment un peu particulier.
Une semaine un peu douloureuse, ouais, effectivement. Et on prie très fort pour que ça s'arrête là et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles.
Alors, vous voulez parler, vous, d'un sujet particulier qui est l'interdiction de blesser quelqu'un par les paroles. C'est intéressant d'ailleurs, parce qu'on voit au milieu de toute cette cruauté dont on parle, le judaïsme millénaire s'est intéressé à une chose. C'est qu'une parole peut faire extraordinairement mal et qu'il n'y a pas besoin de coups pour ça. Donc, blesser quelqu'un avec les paroles, c'est totalement interdit. Et bien sûr que la colère, l'inattention, parfois même le sentiment d'injustice peut nous amener tous à être concernés. Mais c'est totalement interdit, Rav Gueh.
Exactement. Alors justement, dans la paracha de Behar, nous allons lire deux parachiot ce Shabbat, Behar et Bechukotai. Et dans la première paracha qu'on lira, donc paracha de Behar, c'est écrit « Velo tonu ish et amito ». Alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase « Velo tonu » La Gemara dans Baba Metzia, page 58, elle demande « Ketzad, de quoi s'agit-il ?»« Imaya baal tshuva » S'il était quelqu'un qui a fait la teshuvah, il n'était pas religieux avant, et il est devenu pratiquant. Lo yomar lo zechor ma'asecha rishonim. Il ne faut pas lui dire, rappelle-toi de ce que tu faisais au départ. De rappeler ses premières façons, sa façon d'agir avant sa teshuvah. Et d'autres exemples qui sont cités dans la Gemara dans Mametia, mais qui veulent tous dire la même chose, c'est que de ne pas dire à quelqu'un des choses qui risquent de le blesser, de lui entraîner donc une souffrance morale. Et tout ça, c'est interdit. Et je voulais en fait en parler en donnant des illustrations, et également en rappelant que cette interdiction, comme l'explique le Sefer HaChinuch que j'ai devant moi dans la mitzvah Shin Lametret, donc 338, il dit que cette chose-là n'est pas vraie seulement pour des adultes, mais également pour des enfants. Et c'est même vrai pour ses propres enfants. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ne pas blesser quiconque. Évidemment, on a le droit de réprimander ses enfants et de les mettre dans le droit chemin, c'est notre devoir même. Mais on n'a pas le droit de les blesser pour rien. S'il n'a pas un but, si ce n'est pas un but, on va dire, constructif, en général, justement, ce n'est pas constructif, c'est le contraire. Alors, je voudrais vous donner des illustrations qui, je pense, vont vous faire réfléchir et surtout nous donner envie de nous améliorer dans ce domaine, puisque d'après beaucoup de grands maîtres d'Israël, c'est vraiment le sujet des relations entre les hommes qu'il faut très rapidement, on va dire, changer. Et Bezrat Hashem, par le mérite des efforts que nous ferons les uns avec les autres, nous entendrons que des bonnes nouvelles. Et donc je voulais vous donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est celui du Rav Yitzhak Yaakov Weiss. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, le Rav Weiss, c'était le Rav Bedin du Badat de Jérusalem, un des grands décisionnaires de la génération. Il n'est plus parmi nous depuis des dizaines d'années. C'est un homme qui a été un phare pour beaucoup, beaucoup de monde. et il est toujours à travers ces tchouvot responsables que nous étudions. Et le Rav Weiss, à 16 ans et demi, était déjà considéré comme un très grand maître. Il avait déjà reçu la smicha, l'ordination rabbinique. Et assez rapidement, les personnes étaient très intéressées à marier leur fille avec cet homme si prometteur, puisqu'il était extrêmement pointu dans la Torah, dans la connaissance de la Torah et dans le sérieux qu'il mettait à étudier la Torah. Mais ce qui se passe, c'est que le Rav, comme c'était d'habitude à cette époque, reçoit une proposition de mariage, mais dans une autre ville. Et l'intermédiaire, qu'on appelle le chatran, lui dit, voilà, une fille parfaite, il fait évidemment l'article, en lui vantant les mérites de cette jeune fille. Donc, assez rapidement, sa mère et lui décident de voyager et de se rendre dans cette ville pour faire connaissance avec cette jeune fille. Et comme il était d'usage un peu dans cette époque, les vérifications, les discussions en amont faisaient que, bon, effectivement, c'était très avancé, quoi. On était c'était très avancé la proposition de Chidour. Et donc, lorsqu'il la rencontre, il y a un choc terrible, c'est qu'elle a un défaut. Elle a sur son visage un vrai défaut et elle est difficile à regarder. Bon, ils se sont fait avoir par l'intermédiaire, entre guillemets, parce qu'il leur a pas prévenu, il les a pas prévenus. Et donc, ils se sont avancés en écoutant toutes les qualités de cette jeune fille. Et le problème, c'est que le Rav, donc à ce moment-là, donc c'était un jeune homme déjà, ce jeune homme dit à sa mère, écoute, sa mère évidemment veut tout annuler, elle dit, voilà, mon fils, tu peux très bien trouver une fille dans ce défaut, etc. Et lui dit, non, je ne veux pas faire de la peine à une fille d'Israël. Je veux pas la décevoir. Elle se dit qu'on va se marier. Elle a entendu que j'étais intéressé. Je me suis déplacé. J'ai voyagé longtemps. Elle va tout de suite comprendre pourquoi je dis non. Je vais lui faire de la peine. Et toute l'insistance, sa mère incite énormément pour qu'il abandonne. Et lui, il reste sur sa position et il se marie avec elle. Ils vont avoir un garçon. Et puis, commence la guerre 39-45 avec les horreurs que nous connaissons, dont nous avons tous entendu parler. Le Rav s'en sort, sa femme va décéder, il reste avec son fils. Après, il se remarie une deuxième fois, il n'a pas d'enfant. Alors, il va voir les médecins, et les médecins lui disent, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Il dit, mais pourtant, j'en ai déjà un. Ils disent, mais franchement, c'est du miracle. Il n'y a aucun moyen pour vous d'avoir des enfants. Donc, il est marié avec une deuxième femme. Elle va, elle aussi, décéder. Il va se marier une troisième fois. Et il n'aura pas d'autre enfant que ce premier garçon qu'il aura eu avec cette femme qui avait ce défaut physique. Et le Rav de dire, à la fin de sa vie, je ne devais pas avoir du tout d'enfant, parce qu'effectivement, au niveau de son corps, au niveau de ses capacités biologiques, il ne pouvait pas en avoir. Mais le fait d'avoir voulu respecter et ne pas blesser une fille d'Israël lui a donné le mérite d'avoir le seul enfant, le seul garçon qui est aujourd'hui un grand Talmid Chacham, qui va effectivement être le seul enfant qu'il va avoir. C'est une première histoire que je voulais raconter et que pour moi très important de partager pour nous rappeler le respect qu'il faut avoir avec chacun. Et je voudrais raconter une autre histoire. Et je vous parlais des enfants tout à l'heure, donc je voudrais illustrer le fait qu'il faut respecter les enfants. Vous savez que le Rav Chaim Kanievski, on en a entendu parler, il avait un père qui était lui-même un grand tzaddik, le Stapeler, appelé aussi le Rav Yisrael Yaakov Kanievski. Et ce Rav priait dans une synagogue Lederman. J'ai eu la chance d'ailleurs de prier avec lui dans cette synagogue. Et cet homme, il avait du mal à entendre, il avait des problèmes d'audition. Il se mettait juste à côté du Sefer Torah. Et juste à côté de lui, il y avait un jeune garçon qui faisait du bruit, qui faisait beaucoup de... Bon, qui le dérangeait. Alors, il lui a fait une remarque. Bon, l'histoire se pourrait se terminer là, mais pas du tout. Des années plus tard, on voit le Rav Kanievski, donc le Stapeler, se rendre dans une bar mitzvah. Alors, il faut savoir que ce Rav ne se rendait dans aucune bar mitzvah à part sa famille proche. Parce qu'il arrive, c'est le désordre d'un bar mitzvah, tout le monde se lève, tout le monde ne comprend pas ce qu'il fait là. Il se dirige directement vers le bar mitzvah, et il lui demande « Mechila », demande pardon. Alors tout le monde est étonné, qu'est-ce que le Gadol Hador, le plus grand maître de la génération, va demander pardon à un jeune bar mitzvah. Et il explique. Et je voudrais que tout le monde écoute bien ce qu'il explique. Il dit, écoute, je t'ai fait une remarque, une remontrance, dans la synagogue du Berman il y a quelques années. Cette remarque, j'ai réfléchi, elle n'était pas justifiée. Je me suis trompé, c'était pas toi qui fais le bruit, c'était un autre ami. Je me suis trompé, je t'ai fait une remarque qui n'était pas justifiée. Il est écrit dans la halakha qu'un katan, un enfant qui a moins de 13 ans, ne peut pas pardonner. Ce n'est pas possible. On peut lui demander pardon, mais lui, il ne peut pas l'accorder, et en tout cas, ça n'a pas de valeur à l'arrivée. Ce n'est qu'à l'âge de 13 ans que sa mechila, son pardon, est agréé, accepté. C'est pour cela que j'ai attendu les 13 ans. Et le jour même de ses 13 ans, il rentre donc à la bar mitzvah et il demande mechila à cet enfant. Il faut quand même se dire que cet homme, il recevait des centaines, voire des milliers de gens par jour, qui lui demandait toutes sortes de choses, et avoir la tête pour se rappeler qu'il a fait une remarque qu'il estime, que lui estime en tout cas, déplacée, et qu'il a blessé un enfant et qu'il faut lui demander Mechila, vous imaginez bien que c'est quelque chose qui me paraît incroyable. En ce qui me concerne, j'ai trouvé ça magnifique de voir comment le plus grand des maîtres fait attention au plus petit enfant, qui en plus peut-être faisait un peu de bruit, mais qu'il a considéré qu'il ne devait pas lui faire de remontrance. Tout ça pour vous dire que les enfants se respectent. Et c'est pas parce que c'est nos enfants non plus, même nos propres enfants, on doit les respecter. Et on n'a pas le droit de leur faire des remarques si ce n'est pas, si c'est déplacé. Et je vais terminer en disant encore une dernière chose qui m'a fait aussi beaucoup réfléchir. Le Chazon Ish disait que la plus grande réussite d'un homme sur Terre serait de passer toute sa vie, sans que personne ne lui en veuille. Que personne n'ait si vous voulez prier pour quelque chose, on prie Hachem, s'il te plaît Hachem, fais en sorte de me sauver, de me protéger du fait qu'un homme, une personne, un homme, une femme, n'importe, même un enfant, ne m'en veuille. Que je passe ma vie sans jamais blesser quelqu'un, sans jamais que quelqu'un n'ait de bonnes raisons de m'en vouloir. Ça, c'est peut-être la chose la plus difficile, mais c'est peut-être ça que le Chazon Ish disait, c'est à cela qu'un homme doit aspirer toute sa vie. Et je terminerai en citant le Chazon Ish encore une fois, qui cherchait un minyan. Vous savez qu'à l'époque, de Nebrak, ce n'était pas comme aujourd'hui. Des minyanim à chaque coin de rue. Donc, il faisait minyan chez lui à 13h, Mincha Gedola. Et ils avaient tout juste minyan. Et dans le minyan, il y avait son beau-frère, le stapler, le père de Raphaël Gensi, dont je viens de parler. Donc, ils étaient 9, lui, c'était le 10e. Et il dit au Chazon Ish, je dois partir. Je ne pourrais pas rester pour Mincha. Le Chazon Ish lui dit, mais on a besoin de toi, on est juste 10 avec toi. Il dit, mais j'ai pris rendez-vous avec un plombier. Et si je fais mincha, il va devoir m'attendre un quart d'heure. Et je vais donc faire du tsar, je vais entraîner, ce monsieur, il va avoir du tsar, il va souffrir, il va attendre un quart d'heure. Est-ce que j'ai le droit, pour compléter le minyan du Chazon Ish, de faire attendre un juif un quart d'heure? Eh bien, le Chazon Ish lui a dit, tu as bien raison, on fera mincha sans minyan, mais toi, tu ne fais pas attendre un juif un quart d'heure. Vous voyez la grandeur de nos maîtres qui font attention à toute personne. C'est pas parce qu'on veut faire une tefila, minyan, etc., qu'on respecte pas les autres. D'ailleurs, je pense que c'est ça, parce que lorsqu'on fait des voyages ici et là, on veut faire mincha, c'est très bien de le faire en public et de le faire à minyan, mais des fois, lorsqu'on est dans un avion, il faut respecter les autres, et si, par exemple, on risque de déranger qui que ce soit dans l'avion, et en particulier le personnel, ça ne justifie pas, parce que l'on va faire le minyan, de faire un minyan. Il vaut mieux être prié seul, même assis, plutôt que de déranger les autres, parce que tout simplement, rappelons-nous cette phrase, « L'otono ishet amito », c'est inversé dans la Torah, de notre paracha, ne jamais entraîner, créer chez l'autre un sentiment désagréable, ne jamais le gêner, ne jamais le blesser, même sur des choses qui nous paraissent assez légères, faire très très attention au respect d'autrui. Voilà un petit peu le message que je voulais transmettre à nous tous, et me le dire à moi-même déjà, et à nous tous, parce que c'est un travail pas évident, c'est un vrai travail de tous les jours.
Si vous saviez, Rav Gueh, ce que ça me frappe, ce que vous avez dit sur ces histoires de minyanim dans les avions, dans les aéroports, parce que moi, tout me, évidemment, je ne suis pas à votre place, mais tout me choque dans cette histoire. Qui peut se concentrer dans un avion entre... on voit, j'ai vu plusieurs fois des jeunes filles qui disent « Excusez-moi, laissez-moi passer, je travaille. » Et j'en mais quoi, mais c'est minyan, qu'est-ce que tu penses, ça va ? Franchement, vous me... Je suis très très touché ce que vous avez dit, parce que je pensais qu'il y avait que moi qui le pensais. Je dis bon, bah ok, là, c'est comme ça, on fait comme ça. Et imaginez quand c'est des goyim qui disent, mais c'est quoi ces juifs qui nous méprisent et tout. Très, très touchant ce que vous dites.
Avec votre
Pardon ?
Dans un aéroport, si vous êtes dans un aéroport, parce que ça m'est arrivé il y a longtemps, dans un aéroport, si vous mettez sur le côté et que vous faites un minyan et que vous faites les choses à voix basse et que c'est simplement des gens qui sont dérangés parce qu'il y a des juifs qui prient, ça, c'est pas la même chose. Il ne faut pas déranger, comme vous dites, le passage. Il ne faut pas déranger quelqu'un s'il a besoin de silence et on le dérange, par exemple, quelqu'un qui dort et qu'à côté de lui, on fait un minyan et qu'on le réveille. C'est vraiment une interdiction. De l'autonomie chamito, on n'a pas le droit de créer, donc de faire souffrir quelqu'un, de le gêner.
Plus même. Le Khiloul Hachem, plus que le Khiloul Hachem, c'est quoi ces gens-là ? C'est terrible. Est-ce que je peux me permettre de raconter une anecdote après vous ? Parce qu'on me l'a certifié. Donc, avec votre permission, j'ose. Vous savez, c'était à l'Yeshiva de Ketana de Ponyovitch. Les enfants, vous qui dirigez une école, vous connaissez ça par cœur. Les enfants, ils s'amusaient à tenir la porte pour que celui qui va rentrer, quand il va tirer, il va être déséquilibré. Et après, ils courent vers leur place et ça les fait rire. Jeu de gosse, quoi. Ouais, il tient la porte, comme ça, quand le type il tire pour rentrer, on lâche d'un coup et il est déséquilibré. Et on raconte cette anecdote sur Rav Steinman. Il était devant il était derrière la porte. Et le gosse joue à ça. Il ne peut pas savoir que c'est Rav Steinman. Et voilà, il déséquilibre la personne intérieure. Mais c'est Rav Steinman. Catastrophe, quoi. Catastrophe nucléaire, mondiale. D'après ce qu'on m'a raconté, vous savez comment il est rentré, Rav Steinman, dans la pièce ? Il est rentré à reculons. Il est rentré... C'est-à-dire, voilà, quelqu'un...
Pour ne pas mettre mal à l'aise de l'enfant qui a fait ça.
Quand il est allé à sa place, et ça voulait dire à tout le monde, je ne sais pas qui m'a fait ça. Parce que je sais que ce n'était pas contre moi de toute façon. Donc je ne sais pas. Il est rentré à reculons. On m'a raconté cette anecdote. Pour que comme ça, il n'y a aucun enfant qui peut dire, puisque de toute façon, il n'y a aucun enfant qui a voulu lui faire ça. Donc, je ne sais pas qui m'a fait ça. Et il est allé à sa place, il n'a pas vu qu'il était à la porte. C'est beau ou pas ?
C'est magnifique. Est-ce que je vous laisse encore 2 minutes ? Vraiment, c'est encore 2 minutes.
Allez. Alors, si c'est pour s'échanger des belles paroles comme ça, Ravgay, je vous donne une demi-heure.
Alors, parce qu'on parlait de Rachteman, ça m'a rappelé une histoire que j'adore. Que j'adore la raconter. Et je la raconte souvent dans l'école à l'EF. Et je disais la chose suivante, il y avait une classe dans laquelle, donc c'est une classe de filles, et il y a un nouvel élève qui arrive, c'est une fille, mais handicapée. Handicapée avec aussi le visage très marqué, etc. Donc la directrice prévient les élèves en disant, écoutez, il y a une nouvelle élève, mais bon, elle a un visage un peu particulier, je ne voudrais surtout pas qu'il y ait des moqueries, qu'on se moque d'elle, qu'on lui fasse du mal, etc. Bon, malheureusement... L'élève donc entre dans la classe, pas tout de suite des fois, mais bon quelques jours plus tard, il y a certains élèves qui se moquent de la nouvelle et elle en souffre énormément. Les parents se plaignent à la direction fait différentes interventions dans la classe, ça ne sert à rien. Les copines continuent à se moquer de cet élève handicapé. Alors ils vont voir le Rav Steinman. Le Rav Steinman il commence à pleurer en disant comment dans une école on en fait la Torah, on peut imaginer se conduire de façon pareille. Bon, il est très choqué. Et il leur dit quelque chose d'incroyable. Il leur dit, voilà ce que vous allez faire demain. Alors, je vous raconte ce qui s'est passé le lendemain, dans les comtés de Rav Steinman, je trouvais ça extraordinaire. Donc, les élèves arrivent. À 8h30, d'habitude, on fait la tfila de Shacharit, la tfila du matin. Ce jour-là, le prof dit, écoutez, aujourd'hui, on ne fait pas Shacharit. Vous prenez vos cahiers, vous prenez vos stylos, on commence le cours. Alors évidemment, les élèves sont choqués. Ils attendaient, qu'est-ce que ça veut dire ? On fait tous les jours Shacharit, aujourd'hui on ne fait pas. Donc ça y a des remous. Et puis le professeur attend que finalement la question, ils osent poser la question, mais pourquoi ? Il dit, ben parce que le Rav Steinman a dit que vous ne devez pas prier. Ah non, le Rav Steinman, le gars de l'Ador, il dit de ne pas prier Shacharit. Enfin, ça ne veut rien dire.
Incroyable.
Écoutez, il a entendu comment vous conduisez avec la nouvelle. Il a dit qu'en fait, Hachem, il ne supporte pas vous entendre prier. Parce qu'il entend vos prières, ça le met mal à l'aise, il ne supporte pas. Il vous demande si vous pouvez, ne priez pas, parce que cette prière le dérange. Une prière venant de personnes qui n'ont aucun cœur pour leur prochain, eh bien, cette prière n'a aucun moyen de rentrer devant Hachem, elle dérange à Kadosh Baruch Hu. Donc ne priez pas, ça ne sert à rien. Les élèves ont commencé à pleurer, ça les a énormément choqués, et vous avez bien compris que la petite fille, la nouvelle handicapée, n'a plus jamais eu la moindre remarque.
Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui sont les moins pratiquants de ceux qui nous écoutent, que pour Rav Steinman, dire à des enfants « vous ne priez pas ce matin », c'est énorme. Hein, c'est pas...
Priez pas. Ben non, je veux pas de votre prière, je veux pas. Waouh. Rav Guay, je vous remercie pour ces très belles paroles qu'on va de manière certaine répéter ce soir dans nos familles et dans les tables. Et je vous souhaite Shabbat Shalom. Bonsoir Rav Guay. Shabbat Shalom.
Bonsoir.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Donc, une pensée toute particulière. Et nous avons donné notre émission de ce soir, le cours de nos rabbanim, à d'abord la sœur de notre ami, Rav Mordechai Biton, qui n'est pas là. Leilou Nishmat, Michel Michal Habiba Batsimcha. Et bien sûr, à nos frères, qu'ils aient été touchés en Tunisie, ou à tous nos frères qui sont en Israël aujourd'hui, sous les tirs de roquettes en provenance du Hamas. Je vous souhaite un grand Shabbat Shalom, c'est à mon tour de vous dire cette belle chose, et je vous retrouve pour un journal complet enregistré qui sera à 18h.
Shem lo yivne bayit, shavom li boi na boim, Hashem lo yishmarich, shav shokat shoymai. Hashem lo yivne bayit, shavom li boi na boim, Hashem lo yishmarich, shav shokat shoymai.